les clés à bonnette.
Les clés à bonnette. Radio Canu, émission féministe.
Mademoiselle Rose a assommé, a tabassé Colonel Moutarde avec une clé à bonnette.
Sous le pavé, les bonnettes.
Protection placée sur un microphone.
Radio Canu.
Pour limiter la captation des bruits.
Émission féministe.
T'as besoin d'une bonnette de 10 ou de 11 ?
Pour déboulonner le patriarcat
et tous les systèmes d'oppression.
Pour construire des ondes féministes.
Et pour démonter les masculins.
Comme un coup de boulette sur les ondes.
Les clés à bonnettes.
Les clés à bonnettes.
Indispensables à votre boîte à outils.
Pour déboulonner les patriarcats.
Pour démonter les masculins.
Allez.
Pour construire des ondes féministes.
Il va partir ce clou.
Les clés à bonnettes. Émission féministe.
Radio Canu.
Radio Canu. Un vendredi sur deux à 18h.
Ne lâchons pas notre créneau.
Lo de siempre, quieren plata.
Tienen el culo borradito la rata.
A los papitos de corbata, se los come con limón esta gata. Tengo el cumbión, tengo calentura. Y perreo este medio la basura. Somos caleta, más que los pacos. Somos machoros, peleamos sin guanaco. Saca la tela.
Bonsoir, il est 18h05 et vous écoutez les clés à bonnettes sur votre radio, Radio Canu, la plus féministe des radios. Ce soir, on avait envie de réfléchir autour de l'apprentissage. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre ou peut-être désapprendre, transmettre? Et c'est finalement ce qui se passe pour nous en étant ici, dans ces studios, à discuter et tirer des fils autour de thèmes, de théories, de concepts, d'actualité, mais aussi à prendre le micro et faire fonctionner une table de mixage.
Une des définitions du DICO, par exemple, ça peut être acquérir la connaissance d'une chose par l'exercice de l'intelligence, de la mémoire, des mécanismes gestuels appropriés, etc. Mais une autre définition nous dit aussi acquérir par l'expérience, le contact des humains humaines, etc. La connaissance de ce qui sert pour la conduite de la vie.
Nous, on est passés par des différentes institutions dans nos vies d'enfants et d'ados pour apprendre à lire, à écrire, peut-être apprendre des métiers, peut-être pour conduire, tout un tas de choses finalement. Ce qui est chouette, c'est qu'on continue d'apprendre tout un tas de choses aussi dans nos vies d'adultes. Ce soir, on a récolté des témoignages divers autour d'apprentissages récents ou moins récents et on est ravis d'avoir une invitée qui nous racontera son parcours d'électricien. Mais bon, avant.
Et tout de suite, on commence avec un petit point de théorie. On s'est demandé un peu, on va parler d'apprentissage, mais comment est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau au niveau cognitif? Alors, bon, c'est les sciences cognitives qui peuvent nous permettre un peu de comprendre les mécanismes d'apprentissage au niveau du cerveau. Il se passe tout un jeu un peu subtil entre qui implique l'attention, la concentration, la mémoire, la compréhension et les émotions. Et c'est le cerveau qui est le siège de tout ça. Il est constitué de lobes, qui sont un peu des divisions du cerveau, qui sont impliquées dans des fonctions précises. La parole, le langage, le raisonnement, la motricité, repérage dans l'espace, etc. etc. Et c'est toutes ces zones qui sont connectées et interagissent en fonction des besoins et de la complexité des apprentissages. Donc l'attention et la concentration forment le premier maillon de l'apprentissage. Donc comment est-ce qu'on peut définir l'attention? C'est un processus qui permet de sélectionner une information que l'on perçoit, que ce soit par la vision, de l'entendre, de la sentir, etc. Et ensuite la concentration, c'est un processus qui est complémentaire, qui permet de se focaliser sur cette chose perçue pour accomplir une tâche. Et tout ça en bloquant les distracteurs qui nous déconcentrent. Par exemple, on essaye d'écouter quelque chose, mais on est déconcentré par une musique qui attire notre attention, etc. Ce genre de choses. Sans l'attention, il n'est pas possible d'apprendre parce que le cerveau il a besoin d'être focalisé sur ce qu'il veut apprendre. Il a besoin d'avoir une attention particulière sur un truc. Et ensuite entre en jeu le travail de la mémoire. Donc la mémoire de travail qui permet de maintenir et de manipuler des informations verbales ou visuelles pour les utiliser dans une activité pendant une courte période. Et ça, c'est un peu la mémoire du présent. Donc cette fonction, on l'utilise par exemple dans plein de situations, mais je sais pas, par exemple une recette de cuisine pour la suivre, chercher une adresse sur une carte, taper un digicode pour entrer dans un immeuble, lire une phrase un peu longue par exemple, comme je suis en train de faire. Et tous les apprentissages font intervenir la mémoire de travail. Bon, là, il y a des petits exemples, calcul mental, résolution de problèmes, ça c'est plutôt scolaire, mais aussi ben, apprendre à écouter. Quand on répète des mots, quand on apprend une langue étrangère, par exemple, ou répéter des notes, si on apprend un instrument de musique, enfin des choses comme ça. Ou comprendre un texte qu'on est en train de lire, ou un livre, quoi, voilà. Donc ça, c'est la mémoire de travail, la mémoire un peu du présent. Et ensuite, il y a la mémoire à long terme. Et ça, elle accumule dans notre cerveau toutes les traces de nos expériences du passé. Et c'est pas seulement les souvenirs. En fait, il y a plusieurs types de mémoire à long terme. Il y a la mémoire épisodique, qui contient tous les souvenirs de nos moments vécus, nos souvenirs autobiographiques. Par exemple, qu'est-ce que j'ai mangé hier, comment s'appelle ma grand-mère, des choses comme ça. La mémoire sémantique, qui contient l'ensemble de nos connaissances sur le monde, ce qu'on sait sur le monde. La mémoire implicite et procédurale, et ça, c'est un peu ce qui contient l'ensemble de nos automatismes qu'on a appris. Par exemple, on a appris à faire du vélo. Quand on remonte sur un vélo, on sait faire du vélo. On n'a pas besoin de réapprendre à chaque fois. Quand on sait faire nos lacets, ou dans un moment, on sait faire nos lacets.
Et même les choses comme marcher, c'est aussi un automatisme. C'est évident, mais ça nous paraît si évident, mais en vrai... C'est pas si évident, hein, il faut faire...
Après, je suis pas hyper spécialiste. Je sais que, par exemple, les poumons qui... On respire aussi, on n'y pense pas.
Ben oui.
Des choses comme ça, bon. Et donc, le rôle de cette mémoire à long terme, c'est de conserver nos expériences pour les réactiver en fonction d'un contexte ensuite... Ben là, par exemple, en ce qui nous intéresse, un contexte d'apprentissage. Mais c'est ça, à quoi sert la mémoire à long terme. Donc ensuite, il y a aussi la compréhension. Donc ça, c'est un peu un processus qui est complexe, qui mobilise plusieurs fonctions du cerveau, bah, comme on l'a dit, l'attention, la mémoire à long terme, la mémoire de travail, et tout ça, en fait, pour créer du sens, pour construire une représentation, une image mentale aussi juste que possible. Par exemple, eh ben, je sais pas, on est en train de lire une brochure et on essaye d'y mettre du sens sur ce qu'on est en train de lire. Ça, c'est la compréhension. Et ensuite viennent les émotions. Et les émotions, elles sont au cœur des processus d'apprentissage. Elles jouent un rôle d'alarme sur nos états internes et nous poussent à agir rapidement et au mieux pour nous et pour les autres. En fait, elles facilitent la mémorisation et le rappel des connaissances. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile d'apprendre dans des contextes de jeu. Quand on apprend en jouant, en fait, on apprend beaucoup plus vite parce que c'est fun. Et qu'on y prend du plaisir. Et que bah, c'est beaucoup plus difficile d'apprendre quand on a l'esprit ailleurs, qu'on s'ennuie, qu'on n'a pas envie, qu'on est obligé d'être là, qu'on est triste, etc. Donc les émotions, elles jouent beaucoup sur ce processus d'apprentissage. Et enfin, notre cerveau, il apprend tout le temps, du début de notre vie jusqu'à notre fin. Et ça s'appelle la plasticité cérébrale. Au cours des apprentissages et des expériences, c'est la structure même du cerveau qui se modifie, avec la fabrication de nouvelles connexions entre les neurones. Et c'est ça, donc, la plasticité cérébrale. Et ça décrit cette capacité, en fait, du cerveau à faire ça, en fait, tout au gré de notre histoire, de vie, quoi, tout ce qu'on a vécu. Et que, donc, rien n'est figé. En fait, c'est un peu ça. C'est que toute la vie, les neurones, ils changent. Et donc, ça fait que toute la vie, on peut apprendre, peu importe son âge. Après, certainement qu'il y a des... capacité de régénération, j'imagine qu'il y a des durées de vie des neurones, ça je n'en sais pas plus, mais c'est ça qui est important à retenir, c'est que pendant toute la vie, enfin, il n'y a rien qui est figé. Et aussi, bah, on apprend souvent sans que ce soit conscient, mais aussi ça peut être un processus conscient. Quand on va à l'école, quand on fait une formation, quand on décide consciemment d'apprendre quelque chose. Mais aussi, bah, le truc d'apprendre à apprendre, ça s'apprend. Et ça soulève plein de questions qui sont politiques autour de l'accès à l'enseignement aussi. Et aussi, on a parlé de concentration, d'attention, et on se rend bien compte qu'on n'est pas, toutes au même endroit, on n'est pas toutes à des niveaux d'égalité dans les apprentissages divers et variés, et que toutes les difficultés liées à l'apprentissage, elles peuvent être liées à plein de paramètres contextuels, individuels, de santé, de privilèges de classe, des privilèges divers et variés, des privilèges économiques. Et la disponibilité émotionnelle et cognitive qu'on a, et la disponibilité de temps. Enfin, tout ça, c'est aussi des facteurs qui jouent sur comment on apprend tout au long de notre vie. Voilà.
Merci. C'était super intéressant.
On apprend beaucoup à nouveau. Avec cette émission aussi, vous apprenez.
Il y aura une interro à la fin, voilà.
Justement, pour voir si
vous avez ça bien. Sert à apprentissage ou pas.
Ah, mais ça, c'est une grosse question, en vrai. Bah ouais. Parce que. Est-ce que c'est vraiment. Parce que beaucoup de fois, je pense qu'on s'est mis à l'idée d'apprendre comme comme garder les choses ou pour pouvoir montrer que laisser, mais des fois je sais pas, j'ai oublié tellement des choses que j'ai appris à l'école, que j'avais appris par cœur, ouais. Et que maintenant
c'est nécessaire de refaire, de se les redire, j'ai l'impression, pour vraiment s'en souvenir longtemps, quoi.
Et c'est pas moi, je sens que j'ai appris des choses pas par cœur, mais que j'ai gardé encore dans ma tête, parce que c'était plus en rapport à ma vie et pas nécessairement évalué, quoi.
Je ne sais plus comment ça fonctionne aussi, mais je crois que le cerveau, il efface volontairement plein de choses qui ne sont pas utiles. Il y a un peu ces neurones, il y a une espèce de place qui est faite aussi quand ça.
Donc le théorème de Pythagore, c'est normal de.
Mais par contre, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, j'ai des paroles, des chansons que j'aime pas, mais mon cerveau, il les garde.
Ouais. Ouais, un peu malgré toi, quoi.
Malgré moi, ouais. Mais
tu te réveilles un matin, ah merde.
Ouais,
et donc. C'est lié aux émotions. Tu sais, que peut-être t'as entendu une chanson dans un état où, je sais pas, où du coup ça faisait que peut-être tu l'as appris. Je suppose c'est une théorie, hein, parce que je suis pas neuroscientifique.
Oui, peut-être au fond de mon cœur, j'ai les sèmes. Et c'est pour ça que je les garde.
Ou quand tu les as appris, c'était dans un moment où tu les kiffais, et du coup tu les as gardés.
Peut-être qu'on fera un jour une émission sur la mémoire.
Ouais. Allez, oui, parce qu'on a quand même pas mal de choses encore à cette émission, donc on veut donner la bienvenue aussi, Pauline. Merci d'être venue ici.
Merci pour l'invitation.
Est-ce que tu veux te présenter un peu?
Oui, je suis Pauline, j'ai 26 ans et je suis électrotechnicienne maintenant depuis un an. Et voilà, j'ai fini mes études en juillet dernier et je viens de prendre mon premier poste sur la région lyonnaise.
Justement, à propos de ce qu'on discutait sur l'apprentissage, je me suis aussi dit l'importance du contexte. Quand tu apprends, justement, pourquoi tu as décidé de faire ces études un peu tardivement d'électricien, ou est-ce que tu voulais toujours être électricienne et...
Alors, c'est vrai que quand j'étais adolescente, c'était un milieu qui m'intéressait beaucoup, le BTP. Mais c'est vrai que j'ai pas osé passer le cap suite à me retrouver. J'appréhendais beaucoup de me retrouver en classe avec des garçons, etc. Et donc j'ai pas osé me lancer dans ce type d'études, et donc je suis restée dans la voie classique afin de me sentir un peu plus à l'aise. Mmh. Et donc c'est plus tard que je me suis lancée, donc il y a 3 ans. 3 ans, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit, allez, tu vas te retrouver avec des garçons, effectivement, parce que je me suis retrouvée avec des élèves qui étaient mineurs, souvent, et très, très jeunes. Et c'est vrai que c'était assez intéressant aussi d'avoir cette différence d'âge, parce que ça m'a rendue déjà plus forte aussi par rapport à la situation. Mais j'avais quand même beaucoup d'appréhension de me retrouver dans ce milieu dit masculin, en fait.
Toi, t'es l'unique personne femme
Oui, non. Oui, oui, dans mes études, j'ai eu 2 collègues quand j'ai fait ma première année de CAP. On était 3 en classe, donc ça, déjà, ça m'a vachement motivée. Et après, les 2 autres années que j'ai faites ensuite, c'était 100% masculin. Et sur Lyon, je suis allée dans un établissement et c'était la première fois qu'ils voyaient une femme dans leur filière. Depuis la création de l'école, donc depuis 100 ans.
Voilà. Ok. Et c'était la première.
Voilà, c'était la première. Et donc, ils ne savaient pas trop aussi comment ça allait se passer. Je sais que les professeurs, les encadrants, etc., étaient vraiment très contents aussi d'accueillir la première femme. Mmh. Et voilà, c'était. Enfin, moi, ça m'a fait plaisir aussi de voir que voilà, les gens me soutenaient, etc.
Mais est-ce que c'était comme ça l'expérience, ton expérience de cette toute? Tu t'as senti accueilli et tout ça?
Au début, oui, ils ont vachement voulu m'aider, etc. Sauf que c'est vrai que ça a été compliqué après, en fait, avec les élèves, surtout. Les élèves, ils n'avaient pas l'habitude, ils avaient fait leur CAP, leur bac pro, qu'avec des garçons, etc. Là, il y a une fille qui débarque, en plus vieille, etc. Et en fait, ils ont commencé à être vachement jaloux et à et à me dire que j'étais favorisée par le professeur, etc. Et donc j'ai un peu subi des brimades un peu, et c'est vrai que le corps enseignant a pas trop su réagir pour le coup, je pense, parce qu'ils avaient pas l'habitude, et donc ils savaient pas trop comment gérer cette situation. Et donc l'année a été, ma dernière année en BTS d'électrotechnique a été assez compliquée sur ce point-là, en fait. Voilà.
Et comment tu as fait pour tenir un peu ces moments où je me suis dit, est-ce que tu as eu envie d'abandonner des fois ou parfois ou...
Alors abandonner, je pense pas, parce que je m'étais assez battue pour arriver jusque là. C'était ma dernière année d'études et je me suis dit bon, c'est 8 mois à tout casser avec les vacances scolaires, ça devrait le faire. Et heureusement, je pense que j'étais bien entourée par ma famille, mes amis, tout ça, mes proches qui m'ont quand même vachement soutenue tout au long de l'année. Et ça, je pense que ça a été une grosse force aussi pour continuer. Et voilà.
Mais est-ce que maintenant ça va mieux avec ta vie un peu hors de l'école?
Alors les débuts ont été des fois un peu chaotiques dans certaines entreprises, parce que après j'ai voulu me lancer en intérim, parce que justement je voulais trouver une entreprise qui avec qui ça allait bien se passer, surtout avec avec les hommes, etc. Parce que je venais de sortir d'une expérience un peu dure, et donc j'ai fait plusieurs missions d'intérim et qui ont été des fois bien, des fois un peu chaotiques, pour lesquelles je suis partie parce que ça ne convenait pas, parce qu'il y avait certaines personnes qui étaient un peu des hommes des fois un peu trop proches, justement, qui respectaient pas les barrières et les limites, et ils se permettaient de faire des choses ou dire des trucs, de me dire des choses, par exemple, qu'ils ne diraient pas à un collègue, par exemple. Et donc ça a été un peu compliqué. Et heureusement, j'ai trouvé une entreprise où ça se passe bien. Voilà. Et déjà, l'ambiance entre collègues se passe bien, il y a du respect. Et voilà, comme quoi il faut chercher un peu aussi, mais mais voilà, après je pense que c'est des petits, il y aura toujours des petites problématiques, des petites réflexions, mais c'est justement un peu ça aussi, arriver à changer les choses aussi en direct.
Parce que toi, c'était toujours un peu en rapport au genre, c'est-à-dire que soit toi soit une femme, c'était ça qui produisait un peu les problèmes selon toi ou...
Oui. En fait, déjà, moi, j'ai été dans pas mal de chantiers, j'ai vu pas mal de personnes, etc. Et la plupart des gens, la première chose, c'est « Oh, waouh, c'est la première fois qu'on voit une femme, j'ai jamais travaillé avec une femme. » Donc, pour eux, c'est vraiment « Ouh, ok, elle est là, ils savent pas trop comment se comporter, il y en a, c'est maladroit, il y en a, c'est pas très sympa. » Je sais pas, par exemple, ils sont toujours là à vouloir porter les choses pour toi parce que voilà, c'est trop lourd. Voilà, c'est des petits trucs qui font que c'est malaisant en fait pour moi au quotidien, mais en fait c'est compliqué aussi à gérer parce que eux ils pensent des fois faire les choses bien et en fait voilà, ça l'est pas trop quoi.
Parce que c'est un milieu, comme on dira, très très masculin. Et est-ce que tu sens que tu as pris une stratégie un peu pour toi, pour faire face à ce type de situation? Tu les réponds ou tu réponds rien quand ils te font des commentaires? Comment tu les vois maintenant, genre, après cette expérience?
Quand je peux, oui, c'est dire ça ne me convient pas. Après, la solution aussi, c'est de pouvoir en parler avec sa hiérarchie, par exemple, aussi. Ça, c'est bien, voilà, quand on peut aussi. C'est pour ça que ça dépend. Des fois, les gens soutiennent, des fois, les gens ne vont pas dans ton sens. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important aussi, enfin moi c'était vraiment important quand j'ai passé mes entretiens, c'était de vraiment rencontrer les chefs que j'allais avoir et être sûr que pour eux c'était ok quoi. Mmh. Et qu'ils allaient être dans mon sens et pas qu'on allait être en confrontation et qu'ils allaient plus soutenir leurs collègues.
Mmh. Et juste une question, est-ce que tu as eu l'opportunité d'être croisé une femme dans toutes ces... C'est ce quartier ou pas du tout?
Oui, récemment j'en ai croisé une. Donc c'était dans un magasin de matériel électrique. Donc on y va avec un collègue, vu que c'est mes premiers jours, on est binômé. Et quand on arrive, on se retrouve à discuter toutes les deux en fait. Et elle me dit mais je suis vraiment trop contente, c'est la première fois que je vois une femme passer les portes de la boutique. Et donc elle était vraiment, elle est vraiment heureuse et elle me disait franchement ça fait trop plaisir, bravo, enfin voilà, c'était assez cool. Et après elle m'a expliqué que elle, c'était dur aussi en fait pour elle, parce que c'est des spécialistes quand même en matériel électrique, elles connaissent leurs produits, elles en vendent tous les jours, et pourtant apparemment à chaque fois, mais la plupart du temps quand elles proposent un matériel à quelqu'un, à un client, la personne elle n'est pas d'accord, elle va douter du produit, et elle va souvent aussi demander à un de ses collègues masculins pour confirmer que la personne a qu'elle dit la bonne chose, qu'elle lui a bien fourni ce qu'il fallait quoi. Et ça apparemment c'est très compliqué parce que elles se sentent super sous-estimées quoi, tout le temps.
Carrément, je pense que ça nous pose une question parce qu'il y a des endroits où comme ce milieu là qu'il a tellement masculin que des fois ça fait peur de rentrer parce que quand tu racontes tu es un peu toute seule, mais en même temps c'est nécessaire parce que sinon ça va pas changer toute seule, mais malheureusement ça implique émotionnellement aussi un courage quand même d'être là, c'est pas comme tous les voix.
Oui, non mais c'est vrai qu'il faut je pense que s'il y a des personnes qui ont envie de se lancer, il faut se dire voilà, il faut avoir en tête que tous les jours ce sera aussi un petit combat. Tous les jours on va te regarder, même quand je rentre le soir du boulot habillée dans ma tenue de travail, oui je suis en pantalon jaune orange avec j'ai tout l'attirail. C'est vrai que les gens ils te regardent dans la rue, ils te regardent et ils trouvent ça bizarre et ça se voit. Et je pense que voilà, faut quand même se dire il y aura quand même cette vision de toi et tous les jours qui sera, sera présent. Et ça c'est important aussi je pense de le savoir, mais moi je trouve ça bien après parce que je me dis que tous les jours aussi c'est une lutte, et je pense que mon action, si tous les jours je peux faire changer un peu les idées de ces hommes dans ce milieu, ma journée est bien. Voilà, j'ai passé une bonne journée.
C'est super. Bah oui, effectivement. Je ne sais pas si vous avez des autres questions.
Moi, j'avais une question, mais je ne sais pas si tu pourras répondre. C'est un peu difficile peut-être, mais c'est est-ce que tu penses qu'il y aurait des trucs que les formations pourraient mettre en place et après les entreprises pourraient mettre en place pour faciliter quand même du coup l'insertion de femmes dans ces métiers-là, et qui toi t'aurais pu te rendre la vie plus facile et éviter que ce soit à toi de porter toute la charge de te faire une place là-dedans.
Alors après peut-être qu'ils pourraient faire des sensibilisations pour dire elles existent, c'est pas juste sur les plaquettes, mais c'est vrai que les entreprises mettent quand même de plus en plus de moyens justement, parce que ça a été demandé aussi de mixer, de faire une mixité surtout dans ce genre de secteur, mais même ils sont, c'est pour ça qu'aussi les entreprises sont contents quand ils recrutent des femmes, Donc ça, c'est vrai qu'on me l'a dit aussi. Ah, c'est super, on est vraiment très contents, etc. Donc c'est chouette. Mais après, je pense que faire changer la mentalité des personnes en individuel, ça va être... Enfin, après, ça, c'est vraiment juste la personne qu'il faut... Enfin, voilà, je sais pas. C'est, mais déjà, peut-être des sensibilisations, faire peut-être plus de visibilité, voilà, aussi.
Ça me fait penser un peu à l'histoire des quotas. Quotas, des quantités des femmes.
Oui.
C'est ce qu'elle te racontait un peu. Ah, parce qu'elle est infâme, elle a des meilleures notes, ou elle va avoir des meilleurs postes. Parce qu'en fait, ça produit des fois un effet, malheureusement, parce que c'est tout à fait juste, mais tu vois, mais il a cette idée des questionnements, qui a un peu de rancœur contre la personne, parce que. Et comme elle est une femme, elle va être privilégiée, quand c'est pas du tout vrai nécessairement, mais c'est possible d'avoir ces discours aussi autour.
Ouais, mais je pense aussi c'est que dans le secteur du bâtiment, au niveau des chiffres, au niveau de la féminisation, on est à 12,9% de femmes dans le bâtiment. Mais il y en a seulement 1,8 qui travaillent vraiment sur les chantiers. Donc en fait, les femmes dans le secteur du BTP, elles sont quand même sur des postes dits de cadre. Et donc en fait, peut-être que ils pensent à ça, c'est qu'ils ont plus vu en fait des femmes mais dans les bureaux, oui, mais ils en voient pas beaucoup sur le terrain. C'est vrai que 1,8%, c'est vraiment rien. Et c'est pour ça qu'en fait, ils sont toujours étonnés. Enfin, voilà, la plupart des gens sont assez étonnés de se dire, waouh, ok, il y en a une. Mais c'est vrai qu'en fait, en France, on n'est pas beaucoup. Et peut-être que c'est parce que, après, la vision qu'ils ont de femmes dans le BTP, c'est plus au niveau des statuts cadres, etc. Voilà, je sais pas, c'est.
Oui, mais c'est ce que tu dis, peut-être la sensation de pas avoir la place en tant que femme, parce que justement, quand tu vois pas, peut-être tu t'imagines pas non plus à faire ça. Je sais pas s'il y a des autres questions. C'est bon.
Ça me fait penser à, juste pour parler de visibilité justement des femmes dans le BTP, il y a une fille qui fait des vidéos, je crois, sur Insta, je sais pas si elle est vraiment influenceuse, mais elle fait quelques vidéos, qui s'appelle Kelly Cruz, je crois, et qui est carreleuse. Et je trouve que je me dis c'est aussi ça qui, enfin, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui se joue des fois sur les réseaux, sur des trucs comme ça qui vont survisibiliser une personne, évidemment, tu vois, c'est tout le principe du truc, mais qui montre du coup une meuf qui est en train de faire ses trucs, porter ses sacs de ciment et bon, je me dis ça
peut-être c'est un futur là, tu pourrais faire un blog de toutes ces expériences, de ces anecdotes, et je pense que ça pourrait être intéressant. Je sais pas si c'est ton désir, mais et je voulais juste une petite question, parce que tu m'avais raconté que tu avais fait des études aussi à la Guyane française.
Oui.
C'était un cap en électricité, une alternance.
Oui, j'ai commencé.
Oui, justement, ça m'intéresse de savoir si c'était différent là-bas ou pas de tout. Comment tu l'as vécu
là-bas? Ça s'était très bien passé au niveau, relationnel, etc. Même si les profs, c'était aussi, je pense, les premières fois où, voilà, ils ont très peu aussi de femmes qui font ce genre d'études, mais la relation avec les élèves. Donc j'ai été une fois en classe adulte, donc avec des gens un peu de mon âge, et après j'ai été avec des mineurs, donc qui venaient de passer leur bac, et ça s'est très bien passé dans les deux cas, et il y avait vraiment pas eu de problème du tout. Et c'est vrai qu'en fait c'est ça, je m'attendais pas à ça en arrivant en France. Je m'étais dit, vu que en France on est vachement en Europe, en fait, en règle générale, c'est vachement sensibilisé, etc. Je m'étais dit, les mentalités, elles ont dû vachement évoluer. Et en fait, j'ai été vachement surprise en revenant sur le territoire métropolitain de me prendre cette claque par des étudiants lyonnais, quoi. Voilà, c'était...
Dans les pays développés. Et...
voilà. C'était un peu ça.
Bon.
Moi, j'ai une petite question. Est-ce que tu aurais envie de t'organiser en crew avec d'autres meufs, par exemple, pour faire des trucs un peu multi-secteurs? Je sais pas comment. Enfin, toi, t'es en électricité, et est-ce que tu aurais envie de faire d'autres choses avec des chantiers avec d'autres meufs? C'est un truc qui t'intéresserait?
Dans le futur, oui, ce serait quelque chose qui m'intéresserait fortement même. Mais c'est vrai que là, pour le moment, j'ai préféré me lancer dans une entreprise pour apprendre encore, prendre mes marques. Et quand je pense j'aurai l'expérience, un jour, moi, j'ai toujours voulu être à mon compte et voilà, avoir des partenaires. Intéressant aussi travailler pour des gens qui me plaisent, pas juste pour de l'argent, et voilà, ce serait après super intéressant, oui, de trouver d'autres femmes qui font un peu qui travaillent dans le BTP, qui voilà, des carreleuses, des choses comme ça, et en fait après tu peux mutualiser et faire plein de choses.
Okay. C'est cool. Bon, super, merci beaucoup pour ton témoignage.
Merci à vous.
C'est très, très intéressant. Ouais.
Et ben, tout de suite, on continue avec un petit reportage d'autres personnes qui nous racontent des apprentissages plus ou moins récents.
Action. Ah oui, alors moi je dis, qu'est-ce que, attendez, j'ai dit que mon apprentissage de cette année, et eh ben j'ai appris à changer des pneus de car. Et ouais, et c'était super parce que ça a été un peu comme un réapprentissage. Parce que la première fois de ma vie que j'ai appris à changer des pneus, bon, c'était sur des motos. Bon, c'est un peu pareil, sauf que c'est plus petit. Mais genre, c'était horrible parce que ça a pris très longtemps, ça m'a fait pleurer, c'était hyper maltraitant. Et que là, j'ai réappris maintenant que je suis une adulte forte et confirmée émotionnellement avec un gentil collègue. Et ça s'est super bien passé. Et maintenant, je change des pneus plus vite que mon ombre. Sauf que je me suis quand même, j'ai failli me péter le nez avec le démon de pneus, mais ça c'est une autre histoire.
Très récemment, j'ai enregistré un épisode de podcast avec des jeunes filles, et une des jeunes filles m'expliquait qu'elle adorait la danse et que grâce à la danse, elle avait pris conscience du fait qu'elle était douée pour quelque chose. Et en fait, quand elle m'a dit cette phrase, je suis douée pour quelque chose, j'ai réalisé que pendant longtemps dans ma vie, je pensais ne pas être douée. Mais en fait, c'est juste que j'avais fait des activités qui n'étaient pas faites pour moi. Comme par exemple des activités hyper classiques, comme le sport, et je suis pas douée en sport. Ou encore de la musique, et j'ai pas l'oreille musicale. Et du coup, pendant longtemps, je me suis dit, je suis pas douée. Et en fait, un jour, j'ai commencé la couture. Alors, j'ai jamais fait des choses extraordinaires, mais j'y ai pris du plaisir. Et j'ai fait des choses chouettes et j'ai trouvé de la satisfaction à finir des choses. Ensuite, j'ai commencé à faire d'autres loisirs créatifs, à faire des petits bijoux, à faire des choses en pâte fimo. Et voilà, je fais des choses simples, mais qui me plaisent, qui me font du bien. Et j'ai réalisé qu'en fait, c'est pas qu'on n'est pas doué, c'est juste qu'on n'a pas encore trouvé la chose qui nous fait du bien et qui nous donne de la satisfaction.
Ça fait 8 mois. 8 mois que j'apprends à jouer d'un instrument de musique. Voilà, c'était le rêve de ma vie. Et j'ai 31 ans et je me suis dit, si je fais ça pendant encore 10 ans, à 40 ans, ça fera 10 ans que je joue d'un instrument, ce sera maxi stylé. Tout ça pour dire que je me suis dit qu'il n'était pas trop tard, contrairement à toutes mes croyances limitantes. Oh. Et c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de joie. Notamment parce que c'est décorrélé de tout enjeu. J'ai pas besoin de gagner de l'argent avec ça, j'ai pas besoin de... Si je le fais juste pour le plaisir. Et j'ai même envie de dire que le geste se suffit à lui-même. Juste me mettre derrière ma contrebasse et pratiquer tous les jours, ça m'apporte beaucoup de joie. J'en ai pour une vie à peu près d'apprentissage, mais ça me va. J'ai la sensation d'avoir tout mon temps. Je suis au top. Je suis allée plusieurs fois à la Nouvelle-Orléans et j'y vais surtout pour la musique et la danse. Surtout pour danser, assister à des festivals, voir des amis, tout ça. Il se trouve que là-bas, il y a quand même pas mal d'instrumentistes femmes. Et il y a notamment un groupe de jazz traditionnel qui s'appelle Shake Them Up Jazz Band, qui est incroyable. Donc ça déboîte. Elles sont 6. Et parmi elles, il y a une meuf qui s'appelle Julie Schneider, qui est contrebassiste. Et en fait, la voir comme ça, derrière sa contrebasse, claquer des grosses lignes de basse, et genre tout défoncer avec ses potes meufs, qui sincèrement sont ouf, ça m'a beaucoup inspirée. Et je pense que ça aurait été super difficile, voire impossible pour moi, de commencer à jouer un instrument sans pouvoir m'identifier à d'autres instrumentistes.
Dans l'apprentissage récent qui m'a fait beaucoup de bien et qui était un déclic de fou, c'est par rapport à l'anxiété, à ce que c'est et à comment la gérer. J'ai un peu compris que ça m'arrivait souvent d'être anxieuse et que ça avait beaucoup d'impact sur ma vie. Et qu'en gros, qu'on peut vite rentrer dans des spirales où on cherche un peu, on réfléchit à ce qui pourrait se passer de pire, qu'on en fait des trucs un peu gros, qu'on est bloqué et que les deux réponses en fait à l'anxiété, qui sont un peu les réponses qu'on va mettre en place, qu'on crée comme habitude pour pouvoir y faire face, c'est soit être dans l'évitement. Et donc par exemple, ben je sais pas, j'ai peur d'aller à une teuf parce que je me dis que peut-être que je vais me taper la honte ou que je vais y croiser quelqu'un que j'ai pas envie de voir ou quoi. Et donc soit se dit ok, ben dans ce cas j'y vais pas et on est dans l'évitement. Soit on se dit ok, tout va bien se passer et on est dans le fait de se rassurer. Alors qu'en fait, l'évite, c'est dommage, ça nous fait passer à côté de trucs qu'on a peut-être envie de vivre ou qui seraient chouettes. Et le fait d'être dans le fait de se rassurer, en fait, c'est une illusion, quoi, c'est pas vrai. La sécurité et le fait de se dire en fait tout va bien se passer, c'est cool, ça peut nous permettre de vivre des trucs, sauf qu'en fait, ben, potentiellement, on sait pas comment ça va se passer et ça pourrait mal se passer. La solution et le réflexe qu'on devrait prendre idéalement quand on est dans des situations d'anxiété, c'est le fait de traverser, quoi. Donc de faire face, de se confronter, d'y aller, et de pas non plus être dans le fait de se rassurer et de se dire ok, ben peut-être ça va bien se passer, peut-être ça va mal se passer, mais en fait dans tous les cas je suis apte, ben, je suis capable de gérer que ça se passe bien ou mal, et c'est potentiellement pas grave, quoi. Je suis beaucoup plus capable en fait de repérer quand c'est ça qui se joue, même si je suis encore des fois pas très sûre de reconnaître est-ce que dans cette situation-ci je suis légitimement en train d'essayer de me préserver d'une situation qui va vraiment pas être bonne pour moi, ou est-ce que c'est une situation d'anxiété où je suis en train de faire de partir en spirale, quoi. Mais en tout cas ça m'aide quand même de plus en plus souvent à pouvoir repérer quand c'est le cas et réagir de manière opportune. Je sens que je conscientise vraiment aussi que je suis plus apte à faire des choses que ce que je crois, qu'en fait je suis capable d'affronter des situations stressantes, et du coup finalement aussi j'angoisse moins, ou moins vite, ou moins souvent, ou moins fort. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a beaucoup apporté de force.
Plein d'apprentissages, ouais. Différents, du coup, du pneu à la gestion du coup de l'anxiété, mais des apprentissages tous finalement.
Oui, je pense que c'est une histoire aussi qui en est. Des fois, on n'est pas conscient qu'on est toujours en train d'apprendre des choses quotidiennement, des choses plus spécifiques ou plus générales, mais en vrai. Comme c'est vu comme un truc lié à l'éducation et qu'on a arrêté à un moment, c'est pas tout vrai. Ben. On en a déjà discuté un peu qu'on était en train d'apprendre des choses.
Puis c'était intéressant, je trouve, dans le premier témoignage où elle disait que le premier pneu qu'elle avait changé, c'était sous une pression, c'était horrible, etc. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des conditions où tu peux pas apprendre correctement et c'est un peu normal de se retrouver, enfin je sais pas, il y a plein d'enfants qui expérimentent ça à l'école dans des situations de stress de ouf, ils perdent tous leurs moyens, ils sont incapables de faire l'addition que si en fait ils étaient tout seuls, tranquillement avec quelqu'un de bienveillant à côté, bah si en fait ils savent faire 10 plus 5, mais ils répondent 47 si le prof est à côté de lui, il dit mais vas-y.
Ouais, carrément. Il y avait grave la notion de plaisir, je trouve, dans plusieurs témoignages, en fait, de se dire ben en fait j'ai aussi envie de chercher ce qui me fait plaisir, quoi. Peut-être c'est. Enfin, nous, on a peut-être. Enfin, c'est le truc de l'école et de se former pour un métier, pour gagner de l'argent, etc. Et là, je trouvais qu'il y avait plusieurs personnes qui disaient que voilà, quand c'était aussi cool, quand c'était décorrélé de ça, que j'apprends parce que ça me fait kiffer. Puis qu'en fait, il n'y a pas forcément une notion derrière de.
D'argent.
Ouais, carrément.
Oui, ou d'être même.
Ou de performance aussi.
Justement, ouais. D'être doué. Après, j'ai trouvé, c'était beau aussi, c'est de dire peut-être qu'on n'a pas trouvé où est-ce qu'on est doué. Mais des fois, ça m'arrive aussi de dire je peux apprendre à faire quelque chose et peut-être je ne vais pas être la plus douée non plus. C'est-à-dire, je ne vais pas jouer un instrument, c'est aussi. Ça a l'air d'être trop grand et ça fait peur. Et des fois. Peut-être je peux apprendre à jouer, faire 2-3 chansons et c'est pas grave. On va dire, bah, moi, ça, c'est mon expérience au foot aussi. Bien si ça fait beaucoup de temps que je joue, je trouve pas que je suis une super footballeuse trop forte qui pouvait être professionnelle et pas du tout. C'est pas mon objectif non plus. Mais ça continue encore à être intéressant, à apprendre à faire une bonne passe ou apprendre à jouer mieux avec les autres. Pour les plaisirs de le faire aussi, d'apprendre.
Mm-hmm. Carrément. Et après, je sais pas pourquoi, moi, quand on a préparé cette émission, moi, j'ai repensé à l'émission sur les plaisirs coupables de la musique et j'ai repensé à la chanson de Diams avec Vita sur Confession Nocturne. Bon, voilà. On en revient toujours à Diams finalement.
Toujours Diams.
Mais en coïncidence.
Coïncidence, je ne sais pas. Mais en fait, ça m'a fait réfléchir aussi sur comment, à quoi on était baigné dans nos modèles relationnels et que moi, dans les trucs d'apprentissage, j'avais aussi à désapprendre les relations. En fait, voilà, c'était une relation très hétéro, machin. Enfin, le truc très normé, elle parlait de je sais pas quoi, de son mec qui la
trompe, ouais.
Voilà. Etc. Et en fait.
Tu sais très bien quoi.
Voilà, c'est vrai, je fais genre.
On la connaît par cœur, hein.
Moi, je les connais pas.
C'est fou quoi, en fait, on a baigné depuis tout le temps de que l'amour c'est douloureux et que les autres femmes c'est des rivales et que machin. Et en fait, je me dis, putain, ça prend une vie aussi quoi, de l'enlever de la tête. Enfin, dans l'enlever des réflexes, je trouve, de raisonnement et tout ça.
Grave.
Moi, je me souviens la première fois, ou une des premières fois que j'ai embrassé à quelqu'un, et je savais pas qu'est-ce qu'il avait après. Genre, c'est parce que vu tous les films, toutes les histoires romantiques finissaient à ces moments-là, quand il allait. Les vissus finales et fin film Disney. Et donc, qu'est-ce que ça vient après de ça, tu vois? Parce qu'en fait, c'est des apprentissages aussi. On est un peu émotionnellement aussi, on apprend un peu. Il n'a pas de école émotionnelle aussi. Et c'est plutôt la famille, la société, la culture qui, entre guillemets, nous enseigne des choses ou des choses aussi, ben, on sait les stéréotypes, c'est aussi des choses qu'on apprend, donc c'est déconstruire les choses qu'on a appris. Ça, c'est aussi, c'est pas si c'est un apprentissage aussi, apprendre à désapprendre
ou apprendre d'autres choses quoi. Mais
moi, spontanément, quand vous m'avez parlé du thème de l'émission, justement, c'était d'un point de vue militant que je me suis posé la question. Et j'ai vraiment l'impression que dans mon approche du féministe, qui date de quelques années quand même, eh bien, j'ai vraiment eu plein de phases comme ça où, en fait, j'étais d'abord confrontée à une idée, un argument qui venait vraiment heurter plein de vérités que j'avais l'impression d'être sûre. Enfin, et à chaque fois, en fait, j'avais vraiment ce truc, mais peut-être que c'est un peu mon fonctionnement aussi, de bloquer sur une idée qui me posait problème, en me disant, bah, vas-y, je comprends pas, etc. Et de ronger mon frein comme ça, en me disant, bah non, c'est nul, ça va pas. Jusqu'au moment où je comprenais l'idée, et finalement, j'étais, si, en fait, je comprends, etc. Et je trouve que ça m'a appris pas mal d'humilité, en fait, en politique, de me dire, en fait, quand il y a quelque chose qui me heurte profondément, qui vient bouleverser pas mal de certitudes, c'est, en fait, par l'expérience, j'ai compris que c'était assez souvent, en fait, que c'était des choses qui, enfin, c'était assez fondé et que j'allais finir par comprendre, mais qu'il fallait aussi me laisser le temps de les digérer, de digérer le fait que, quand ça bouscule des certitudes qui sont hyper ancrées en toi, c'est pas toujours facile de tout de suite intégrer une nouvelle idée, un nouveau concept et une nouvelle vérité, quoi. Et que, du coup, l'apprentissage en politique, je trouvais que c'était quelque chose qui prenait du temps.
Carrément. Et surtout dans une culture, on est un peu dans les débats où il faut dire, avoir la vérité, et c'est ma posture qui va emporter l'autre. Je sais pas, c'est un peu presque mal vu de dire, ah oui, peut-être je me trompe. Et des fois, je vais pas dire, on va pas généraliser surtout, mais moi, constamment, j'ai dit, ah, j'ai pensé ça avant, maintenant, je suis pas sûre, j'ai des questions. Ça, je n'avais pas pensé, c'est intéressant. Ou comme tu dis, en fait, je pense qu'effectivement, les apprentissages, quand ça hurte, ça veut dire qu'il a touché quelque chose de profond. Mais ça ne fait pas plaisir.
Et je pense aussi que c'est pour ça, il y a des fois dans ma vie, où, alors, pas forcément que en politique, où je sortais hyper frustrée de débats, où j'avais l'impression que la personne en face, je ne comprenais pas mes arguments, ou alors que moi, je ne comprenais pas les siens. Et j'ai aussi appris ça, c'est de me dire, en fait, des fois t'as l'impression qu'il ressort rien d'une discussion, que les deux parties se sont juste pris le bec, mais en fait ça n'empêche pas que des deux côtés ça continue de cogiter un petit peu après, et qu'en fait c'est enfin ça faut enfin je sais pas faut j'ai l'impression que des fois c'est bien aussi enfin qu'on peut sans enfin avoir des arguments enfin une discussion t'as l'impression qui est complètement stérile mais qui finalement peut-être 6 mois plus tard aura quand même un peu semé des graines et
Bon. Ouais, on apprend beaucoup en discutant, en échangeant, et même si sur le coup on n'est pas vraiment d'accord, effectivement après ça cogite.
Mais en fait, j'ai une théorie sur ça, et je le pense beaucoup, je vous partage. C'est mon idée qu'on doit discuter avec des personnes qui viennent vraiment des points de vue très très différents. Pour dire, c'est pas ma grand-mère qui est un peu fâcheux. donc, normalement, on est très très loin. Et des fois. Je vais pas arriver à les convaincre d'un chose différent. C'est pas l'objectif. Et des fois, c'est pas non plus ce qui va passer. Mais des fois, c'est juste ce que tu dis. Faire questionner les choses, douter. Tu sais que c'est très rare que quelqu'un dans la discussion va te dire oui, toi, Arsène. En vrai, oui. C'est fini. J'étais toute mal. Mais par contre, c'est juste de dire, de mettre des idées. Peut-être pourquoi, c'est ce que tu as réfléchi, pourquoi c'est ça comme ça. Voir si toi, t'es pas trop énervé, parce que des fois, on est énervé et on peut pas faire ça. Hein. Mais effectivement, même quand on est énervé, après, ça reste et ça cogite. Déjà, une expérience, quand à un moment, j'ai parlé de féminisme au lycée. Et à un moment qui n'était pas là, c'était avant les MeToo, 2016-2017, un truc comme ça. Et je me souviens qu'il y avait des filles dans la salle et tout le monde était contre. Sauf 2 personnes, je pense. Et c'était non, mais le féminisme, non, on est égalitarisme. J'étais bon, ok, ouais, on va pas. Mais je l'expliquais quand même, parce que qu'est-ce que ça voulait dire. Et après, 12 ans après, il y a une des filles qui est venue à nous voir. Qu'elle est sortie déjà, qu'elle fait ses études ailleurs, et elle est venue spécifiquement à me parler pour me dire « Prof, maintenant je suis féministe ». Et en fait, ça m'a fait trop trop plaisir, mais en fait, ça fait après 2 ans, en fait, elle a cogité quand même énormément de choses, sûrement des expériences qu'elle a vécues, mais qu'il a fait sens à ça, ce que j'ai dit à ce moment, quand elle avait dit « Non, pas du tout ». Donc à la fin, c'est pas si perdu quand même.
Et puis nous, il y a certainement quelqu'un a planté une petite graine à un moment.
Ah, je suis sûr. Et on ne sait pas.
Il y a peut-être notre vécu aussi qui a planté ses petites graines aussi.
C'est sûr.
Bon, et peut-être que sur ces belles paroles, pour ne pas trop déborder sur le canu info derrière, on peut passer. Tu veux le présenter peut-être.
Et c'est une copine de l'émission qui est malheureusement absente, mais qui nous a quand même envoyé un petit témoignage aussi. Et elle va en parler mieux que moi, mais elle a appris à convivre dans un contexte très différent de ce que peut-être on connaît nous de l'auto-école, etc., où on a payé nos heures de conduite et tout ça. Donc elle va nous raconter ça.
Moi, je crois qu'une de mes meilleures expériences d'apprentissage, ça a été d'apprendre à conduire.
Tout simplement, on m'imagine dans ma 2 chevaux d'origine, affrontant mon premier trottoir, le cœur rempli d'espoir.
Mais c'est que moi, j'ai eu la chance de passer mon permis avec un collectif qui s'appelle le collectif de l'auto-école autogérée, du coup, de passer mon permis collectivement avec des copaines autour de l'âge de 30 ans. Et j'ai fait ça après avoir 2 fois loupé mon permis, comme on dit, et surtout après des assez mauvaises expériences avec des moniteurs sexistes, libidineux. Et puis voilà, 10 ans plus tard, j'ai un pote qui vient me voir et qui me dit « Ben écoute, on fait souvent de la route ensemble, et il y a ce projet-là porté par des copains, tu sais qu'en vrai c'est possible et de passer le code ». Et de passer le permis en candidat libre sans passer par une auto-école. Alors, je le savais pas. Et puis, on s'est dit, banco, allez, on teste tous les deux. Moi, j'ai un peu des bases de conduite. Et lui, il a envie de m'aider à conduire. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup moins cher et bien plus joyeux que si on le fait tout seul. Alors, à l'époque, je sais plus comment c'est maintenant, mais comme moi, j'ai passé le permis, l'inscription à l'examen du code de la route, ça coûte 30 euros. Et alors là, c'est le trick un peu, c'est que pour s'inscrire à l'examen de la conduite, c'est complètement gratuit. Tout le monde peut s'inscrire en candidate libre pour passer le permis une fois qu'il a le code, gratuitement. Alors gratuitement, évidemment, pendant tout le temps de l'apprentissage, il faut payer l'essence, les péages, mais on paye ni cours et surtout ni inscription. Alors, comment j'ai su tout ça? C'est grâce justement à cet asso, à ce collectif de l'auto-école autogérée, qui est en gros un collectif de personnes qui propose à celles et ceux qui ont envie d'apprendre à conduire de mettre à disposition une voiture à double commande. Donc voilà, il faut que toi, tu aies le code et que de l'autre côté, tu sois accompagné d'une personne qui ait son permis depuis plus de 5 ans. Et là, paf, ça devient légal de conduire ensemble dans une voiture à double commande. Pour avoir une voiture à double commande, eh ben, on peut la louer, mais là, pour le coup, ça coûte cher. Ou voilà, collectivement, essayer de s'en procurer une et la mettre à disposition des apprenants-apprenantes. Et c'est ce qu'a fait l'auto-école autogérée. C'était aussi l'envie de vivre une expérience collective et quand même affinitaire avec des gens qui se soutiennent les uns les autres, puisque ce collectif, il se réunissait tous les deux du mois, pendant 2 heures. Et du coup, là, c'était l'occasion de se mettre d'accord sur le calendrier, qui emprunte la voiture quand, mais surtout vraiment de faire des échanges d'expériences et de soutien. Ce qui veut dire que les personnes qui devenaient professeurs, voyez, ou apprenantes, eh ben, elles discutaient entre elles de pédagogie, de comment faire pour apprendre à conduire, parce que on s'improvise pas comme ça, formateureuse, formatrice. Les personnes apprenantes, elles pouvaient partager aussi leurs doutes, leurs questions. Alors, concrètement, comment ça s'est passé pour moi? Eh ben, quand on s'est lancé dans le projet, déjà, j'ai dû repasser mon code. Et là, les copains avaient déjà acheté donc cette voiture d'auto-école à double commande. Donc, c'est pas moi qui ai participé au sein de ce collectif à l'acheter, mais elle était bien, bien pratique. Et c'est surtout qu'on s'est lancé, voilà, avec mon ami, de ce truc, on se lance, on conduit ensemble, quoi. Donc, on a commencé dans des petites rues désertes de Gerland parce que, ça faisait plus de 10 ans que j'avais pas conduit, je savais pas si j'allais m'en souvenir, j'avais extrêmement peur. Et puis, mon pote, lui, il avait jamais utilisé une voiture à double commande, c'est pas facile de freiner pour quelqu'un, de savoir comment le ou la guider. Et du coup, on a commencé comme ça à faire des démarrages, passer tranquillement les vitesses dans ces petites rues désertes de Gerland. Et très vite, quand même, les réflexes, ils sont revenus. Et nous, on avait la chance de faire des projets en commun, de souvent se balader pour aller faire des week-ends dans nos collectifs politiques. Et donc, on a vraiment utilisé la voiture comme on l'utiliserait au quotidien. Et ça, j'ai trouvé ça hyper chouette parce que j'ai eu l'impression de vraiment apprendre à conduire. Vous voyez, une fois, on a amené une copine et sa nièce faire du cheval. Et j'ai appris à conduire avec un enfant à l'arrière, à m'arrêter à la boulangerie parce qu'on a envie de s'acheter des bonbons. Et puis, il y a eu tout cet apprentissage entre nous deux, épaulé par tout le collectif, de comment on fait pour se transmettre un savoir, comment on fait pour se transmettre un savoir dans un contexte qui potentiellement peut être dangereux. Quand on apprend à rentrer sur une bretelle d'autoroute ou à doubler des camions, il faut quand même avoir une grande confiance l'un dans l'autre pour que ça fonctionne. Et nous, ça a bien fonctionné. Et très vite, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai dit tout ce qui me passait par la tête. Quand je conduisais, j'extériorisais tout. Je disais, ah tiens, là, je vois un piéton au fond, là, je regarde mon rétro. Parce que oui, du coup, quand on va passer le permis, avec cette configuration-là, on s'inscrit en candidat, candidate libre. On est avec son accompagnateur, donc moi j'étais avec mon ami, et donc l'examinateur de conduite dans la voiture. Et ça, je trouve, ça change tout, on n'y va pas toute seule. Et moi j'étais avec un pote qui était là, ah mais la veille, j'ai rêvé de toi, j'ai rêvé que t'avais ton permis, ça va hyper bien se passer. Il y avait les textos des copains, copaines de l'auto-école qui soit avaient passé le permis, soit qui allaient le passer, qui étaient en soutien. Et du coup, je suis arrivée hyper confiante. Et j'ai eu mon permis. J'étais hyper contente de voir que le collectif était content pour moi. J'ai continué du coup à m'investir dans ce collectif pendant 2 ou 3 ans après, parce que je trouve qu'il y avait souffle de partage et de reconnaissance. Vous voyez, ces collectifs qui sont pratiques, qui amènent à apprendre un savoir pratique, mais qui en même temps, au final, je trouve dedans, on expérimente l'autogestion. On expérimente vraiment qu'est-ce que ça veut dire l'éducation populaire, qu'est-ce que ça veut dire de travailler sur aussi nos positions situées respectives, de comment est-ce qu'on peut s'entraider à partir de là. Et ça, au-delà de la conduite, ça a été une expérience extrêmement enrichissante pour moi. J'ai à aucun moment envie de faire l'apologie de la voiture ou de la conduite. En même temps, c'est vrai que ça sert de savoir conduire, ça sert d'avoir le permis, que ça joue des enjeux financiers, que ça joue des enjeux de se sentir cap, que en même temps, pouvoir conduire des petits camions pour prendre la route, transporter du matos pour les projets collectifs, pouvoir prendre la route aussi parfois pour dépanner une copine, pour l'amener à l'hosto, et ben ça, moi, je trouve c'est hyper important. Du coup, je trouve ça hyper important que ce projet d'auto-école, il existe, et ça empêche en rien que je kiffe le stop encore de temps en temps quand j'ai l'énergie de le faire, que je me balade en vélo. Et justement, bah moi, après, la seule voiture que j'ai jamais possédée, ça a été une voiture qu'on a eue à quatre en collectif. Et je conseille vraiment cette approche de la voiture parce que ça nous a poussé aussi, nous, à faire nos vidanges nous-mêmes, à changer nos pneus, à aller voir des garages autogérés pour savoir comment changer nos plaquettes de frein. Et puis, bah voilà, la voiture, elle est pas qu'à nous, à réfléchir toujours à pourquoi est-ce qu'on la prend. Et je pense que c'est une approche qui, typiquement, voilà, moi, m'ont fait repenser un peu les questions d'apprentissage et m'ont permis de travailler l'autogestion et le fonctionnement ensemble.
Je voulais que ma manœuvre fût un vrai petit chef-d'œuvre, mais je n'entendais que trop tous les clients d'un bistrot me beugler leurs commentaires. Mais passe là ta marche arrière.
Et ben voilà, on aurait envie que cette émission dure encore quelques temps pour réfléchir autour de tout ça, de
on
ces
pourra faire un deuxième partie
commun, de ces transmissions, tout ça. On pourrait faire une deuxième partie. Mais malheureusement, c'est la fin. Et merci beaucoup d'être venu.
Merci Paul.
Merci beaucoup à vous. Hein. C'était super.
Et on. Je ne sais pas si vous avez un petit mot de... On se voit dans 15 jours. Là, on va laisser l'antenne au Canu Info du vendredi. On vous laisse avec Anne Sylvestre, cette magnifique chanson. Et puis, on se retrouve dans 15 jours. Et la semaine prochaine, vous pourrez retrouver l'émission Interlope qui est en alternance avec les clés à bonnettes. Donc, à très vite. Bonne soirée.
À très vite.
À la prochaine.
Conjurer la parano. J'ai devenu la reine du créneau. On s'habitue, on en rigole, puis on a une grosse bagnole. Alors on se fait insulter, eh t'as pas trop coûté, hein. Ils sont là qui vous collent aux fesses, parce que c'est pas une gonzesse qui va leur barrer le chemin. La veille c'est pas demain. Mais tous ces doubleurs à droite, ces pousse-toi là que je déboîte. Maniaque de l'appel de phare, abuseur d'anti-brouillard, ce chez qui rien ne distingue, le volant avec un flingue, avant que de les laisser nous jeter dans le fossé. Résistons à ces tyrannos, nous sommes les reines du créneau. S'ils nous renvoient à nos fourneaux, ne lâchons pas notre créneau.